Amis de YouTube, bonjour. J'espère que vous allez bien. On est dans la matinée Étienne. Ce lundi 20 avril, on est tombé du lit. On a lancé la revue de presse à 6h15 ce matin. Et dans cette revue de presse, avec un sommaire, vous voyez, où il y a plein d'actu, on vient de parler du Liban et de l'Iran, il y a une actu en France dont on voulait vous parler. On voulait vous parler de ces jeunes tueurs, de ces tueurs mineurs à Marseille sur fond de narcotrafic. Il y a un papier dans Le Monde et je voulais vous le lire ce matin. Pourquoi ? Parce que vous êtes sûrement au courant qu'il y a eu des affaires criminelles qui ont impliqué des jeunes, des mineurs, des ados à Marseille. Mais je ne m'attendais pas à ces chiffres. Et quand j'ai découvert cet article, je me suis dit, il faut absolument qu'on en parle, parce qu'il se passe quand même un truc qui n'est pas un épiphénomène, qui est un phénomène. À Marseille, les mineurs sicaires, donc sicaires sont des tueurs hein, du narcotrafic, le chiffre est fou, une cinquantaine d'ados sont mis en examen à Marseille pour meurtre ou tentative de meurtre. C'est pas un ado, c'est pas deux ados, c'est pas trois ados, c'est pas des cas isolés. On parle d'une cinquantaine de mineurs, d'adolescents mis en examen actuellement à Marseille pour meurtre ou tentative de meurtre. Et on suppose qu'il y en a peut-être d'autres qui sont pas visés par des enquêtes et des mises en examen. Alors là, je me suis dit, il faut qu'on essaie de comprendre ce qui se passe à Marseille, quoi. Kevin, prénom modifié, est un adolescent sans histoire, respectueux de la consigne que lui imposent ses parents de rentrer chaque soir à 18h. Ce collégien en classe de 3e est totalement inconnu de la police et de la justice, même s'il a l'air d'une déscolarisation prolongée, n'a pas été pris en compte. Un jour des vacances de février dernier, hein, on le retrouve dans une cité des quartiers nord de Marseille, située à 5 minutes en bus de son domicile, une arme à la main, appuyant sur la queue de détente en visant un homme à 2 mètres de distance. Kevin ne sait pas se servir de son arme, le pistolet s'enraye, la victime le désarme, le roue de cou. Kevin a fêté ses 15 ans un mois et demi plus tôt. Il vient d'avoir 15 ans. Mis en examen pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs, il a été condamné le 9 avril à 9 ans de prison pour tentative d'homicide volontaire en bande organisée et association de malfaiteurs. Quelqu'un me disait tout à l'heure, Alexis demandait dans le chat, est-ce qu'ils peuvent recevoir des grosses peines ? Donc là, ce collégien de 15 ans a été jugé pour tentative d'assassinat, hein, son pistolet n'a pas marché, il a pris 9 ans. 9 ans de prison pour tentative d'homicide volontaire en bande organisée et association de malfaiteurs. Le tribunal pour enfants a également prononcé une interdiction de détention d'armes pendant 7 ans et une mesure éducative selon son avocat Baptiste Puffle. Le tribunal pour enfants a estimé que son jeune client a été instrumentalisé et téléguidé de bout en bout, même s'il n'avait jamais renoncé au projet criminel. Kevin est l'un des 47 mineurs mis en examen dans une affaire d'assassinat ou tentative recensée au 31 décembre 2025 par parquet de Marseille, ce qui ne signifie pas qu'ils sont tous auteurs de tir, mais qu'ils composaient à tout le moins une bande criminelle organisée. 47, le phénomène de ces tout jeunes tueurs à gages auxquels on met pour la première fois une arme, parfois un fusil d'assaut entre les mains, a connu une augmentation vertigineuse. C'est-à-dire que 47, c'est à la fois peu et beaucoup, c'est-à-dire par rapport à la population marseillaise, 47 personnes, c'est pas... Mais c'est énorme en même temps. Voilà. C'est-à-dire que tu te promènes à Marseille, tu vois un ado, le gars est collégien, bah c'est peut-être un tueur. Et là tu bugs, tu te dis mais qu'est-ce qui va pas quoi. Pour les mêmes incriminations criminelles, il n'était que 4 mises en examen en 2020 par exemple, aucun en 2021 et 2022, et là on est à 47. Voilà. Donc là il y a un phénomène, il y a un truc qui s'est passé. 4 ou 5 jours avant les faits sur Snapchat, Kevin, l'ado dont on parlait tout à l'heure, était entré en contact avec El Diablo, qui lui avait demandé de télécharger la messagerie cryptée Signal. Sur celle-ci, El Diablo, donc c'est son correspondant, et un autre interlocuteur surnommé HTTS le recrute, interrogé par le juge d'instruction. Vous avez 15 ans, des inconnus vous demandent d'aller tuer quelqu'un et vous dites oui. La réponse de Kevin tombe, ils m'ont dit 15 000 euros. De l'argent que l'adolescent destinait à sa mère, la commande était sans détour, tu mets une balle dans le ventre et après tu pars. Ajoutant, on va te faire une première mission, si tu es carré, on te donnera d'autres missions. Les enquêteurs ont reconstitué le contrat passé, le périple de Kevin, attendu par un homme cagoulé dans la cité où sont déroulés les faits, guidé jusque dans un bar pour repérer la cible, un homme aux cheveux longs avec une veste sans manches. Il m'a montré qui je devais tuer, il m'a dit c'est lui, l'homme cagoulé l'équipe d'un Glock. Alors l'ado, il dit un Glock, mais justement il est pas bien au courant quoi. Donc je suppose qu'il parle d'un Glock. L'homme cagoulé explique le jeune garçon l'équipe d'un Glock, comme ils ont les policiers, donc c'est bien un Glock, dit l'adolescent pour décrire l'arme récupérée dans un sac poubelle caché dans le compteur électrique d'un sous-sol. Après que le tir a échoué, Kevin est jeté au sol, frappé avec la crosse de son arme. En sang, il entend la victime et ses amis envisager de le mettre dans un coffre. Mais le patron du bar aurait dit « Non, on appelle la police, c'est un petit. » Et Kevin d'ajouter face aux enquêteurs « De base, il comptait me mettre dans un coffre et après, je sais pas, me tuer. » Le garçon dit regretter, même s'il mesure mal les choses. En garde à vue aux policiers, il griffonne sur un carnet. Est-ce que si je sort avec un bracelet, pouvez-vous me mettre dans un lycée qui a comme étude l'électricité ? Et à la fin de l'interrogatoire chez le juge, il redevient un enfant. Est-ce que vous pensez qu'à la fin de mon mandat de dépôt, je pourrais faire une demande de CEF, de centre éducatif fermé ? Le magistrat lui opposant qu'envisager sa libération est prématuré, l'adolescent lâche, résigné. D'accord, de toute façon, je vais à l'école et je suis sage. Après 14 mois de détention provisoire, des éducateurs notent que le garçon, toujours soutenu par sa famille, aurait commencé à prendre conscience de la gravité des faits. Si la transformation de Kevin en tueur à gages a des allures de coup de tonnerre dans un ciel tout bleu pour Théo, donc ça c'est un autre jeune homme, prénom également modifié, cela s'apparente plus à la chronique de mort annoncée. Mowgli, son surnom à cause de ses longs cheveux, a 16 ans, 16 ans. Lorsque le 11 novembre 2023, sur le parking d'un McDo des quartiers nord de Marseille, il vide le chargeur d'une Kalachnikov sur un véhicule. 16 ans. Tuant 2 des 5 passagers, dont une jeune fille âgée de 25 ans, sans aucun lien avec le trafic de drogue. Originaire du sud-ouest, Mowgli déballe immédiatement tout en garde à vue un an plus tard en octobre 2024. Je suis le tireur de cette affaire. J'étais accompagné de Y, le commanditaire de ce commando, et l'animal, tout comme son camarade âgé lui de 17 ans, conducteur lors des assassinats, surnommé Sicar 13. Mowgli est sous la coupe d'un homme surnommé l'animal, le rôtisseur. Les consignes reçues, tue un garçon. Je ne sais pas pour quelle raison. J'ai essayé de demander pourquoi faire ça. Ils m'ont dit que je n'avais pas besoin de savoir. De base, on m'avait dit qu'il y avait 2 garçons et qu'il fallait les abattre. Après, on m'a dit qu'il y avait des filles dans la voiture. ZZ, donc l'un de ses interlocuteurs, il m'a dit de tirer sur tout le monde. Les 2 ados étaient pilotés sur les réseaux sociaux via un premier groupe Signal baptisé Mission, sur lequel l'animal passait les consignes, et un second intitulé Convoi sur Snapchat, sur lequel les enquêteurs pensent avoir identifié les figures de la DZ Mafia, donc ZZ. Une amie des 2 jeunes qui les avait logés avant ces assassinats, à leur retour de Lorient. Ils venaient de Lorient. Je crois qu'on a vu que l'autre tout à l'heure venait du sud-ouest, c'est ça ? C'est pas forcément des gens de Marseille. C'est pas forcément des gens de Marseille. Ils peuvent être recrutés n'importe où. Hein. Une amie des 2 jeunes qui les avait logés avant ces assassinats à leur retour de Lorient, où ils avaient été dépêchés pour reprendre un terrain, ou alors à moins qu'ils ont été envoyés dans une première mission de Marseille à Lorient. C'est pas très clair. Les décrit comme fascinés par l'animal, Mowgli était vraiment matrixé par lui. Dès que l'animal mettait une story, il la republiait, il mettait toujours des films sur le cartel de Jalisco, nouvelle génération organisation criminelle mexicaine. Pour semer la mort, on nous avait dit 10 000 chacun. Le prix d'un mort. Au final, on a eu 3000 à partager en 2 et l'animal a récupéré le reste. Ce garçon qui dit aux policiers « Mon papa est mort quand j'avais 9 ans » avait alerté la justice des mineurs avant qu'il ne commette ses assassinats. Des mesures éducatives, un placement en foyer, lui avait été imposé pour des violences commises sur sa mère jusqu'à son interpellation un an après les assassinats commis à Marseille. Sa participation à des réseaux de stupéfiants le conduiront à des placements en établissement pénitentiaire pour mineurs et puis en centre éducatif fermé. Contrairement au premier garçon de 15 ans, tout à l'heure, celui-ci avait déjà un parcours judiciaire. Cet extrême rajeunissement se traduit dans les chiffres du parquet de Marseille. Sur les 166 mineurs mis en examen dans les dossiers de criminalité organisée, soit des faits de meurtre, mais également d'extorsion, parce que là, on parle de meurtre ou de tentative de meurtre, mais il y a plein d'autres choses. Hein. Là, on parle de 47 mineurs mis en examen à Marseille pour des assassinats ou tentatives d'assassinat, mais on a 166 mineurs mis en examen dans les dossiers de criminalité organisée. Donc meurtre, mais aussi extorsion, séquestration, association de malfaiteurs criminels. 36 ont moins de 16 ans. Phénomène qui a explosé en 2023 avec la guerre entre la DZ Mafia et Yoda, un autre clan de trafic de stupéfiants. Sur les 47 mineurs mis en examen dans un dossier d'assassinat ou de tentative, 4 ont 14 ans, 10 ont 15 ans, 15 ont 16 ans, 18 ont 17 ans. L'explosion de l'implication de très jeunes garçons dans des affaires gravissimes a conduit à la spécialisation de 2 juges des enfants pour juger ces dossiers de plusieurs tomes, sans commune mesure avec ceux que les magistrats traitent habituellement avec leur double casquette répression et éducation. Quelqu'un me disait tout à l'heure, très justement, je reprends, c'est brutal, c'est pas tant les jeux vidéo que la glorification de l'argent roi. Il est évident que les jeux vidéo n'ont rien à voir avec tout ça, hein, contrairement à ce que des politiques populistes aimeraient nous faire croire parfois. Mais l'argent, oui. L'argent apparaît comme un puissant moteur à leur basculement dans la grande criminalité. Analyse-t-on au parquet, a dit Le Monde, qui observe aussi que les groupes criminels leur apportent un sentiment d'appartenance à un contre-pouvoir, à une contre-société. La plupart vivent dans une famille composée de la seule mère et de frères et sœurs, et leur mère fait souvent ce qu'elle peut, analyse-t-on au parquet. Ils ont un vrai sentiment d'abandon, vivent dans des habitations à l'abandon, elles aussi. Et comme dans le quartier de la Castellane, ils voient que le réseau décore la cité pour Noël ou à Carpentras, dans le Vaucluse, offre des fournitures scolaires à la rentrée des classes. Amer constat d'un magistrat chargé de la lutte contre le crime organisé, pour qui il ne faut pas accepter l'échec, car si on laisse l'espace vide, eux le rempliront, eux, ce sont les narcotrafiquants. L'hyperviolence n'est pas seulement liée à la criminalité organisée. Le 3 mars, un ado de 15 ans a été condamné pour meurtre à 12 ans de réclusion pour un coup de couteau mortel porté à la gorge d'une victime du même âge. Les 2 étaient inconnus de la justice, sans aucun lien avec les stupéfiants. Tout cela parce qu'une jeune fille aurait rapporté que la victime avait dit qu'elle niquait sa mère. C'est l'autre fléau des mineurs, c'est l'ultra-violence dans la rue, déplore Céline Regnault, qui est procureure adjointe chargée de la section mineurs-famille. On se donne rendez-vous pour en découdre avec un couteau dans la poche. Hier, les mineurs commettaient des vols qui sont désormais des vols avec violence, des refus d'obtempérer qui sont maintenant accompagnés de mises en danger, ou des vols à la sortie du lycée qui se commettent maintenant avec une arme. Aujourd'hui, toute la délinquance des mineurs est marquée par une aggravation de la violence. Papier de Luc Leroux dans Le Monde. Alors, le papier est assez long, hein, il fait une pleine page, mais il ne fait qu'effleurer les raisons de ce phénomène, sur lequel il y a quelques pistes quand même à la fin de l'article. Mais le phénomène en lui-même, il est quand même inquiétant et dramatique. On a 47 ados à Marseille mis en examen pour meurtre ou tentative de meurtre. Voilà. C'est un sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir, bien sûr. Je vous lis un petit peu et on enchaîne. Source sur l'augmentation de la violence, me demande quelqu'un dans le chat. La procureure adjointe chargée de la section mineurs-famille. A priori, elle a les chiffres. Je sais que parfois, certains médias veulent mettre en scène une supposée augmentation de la violence pour nous faire un peu flipper. Là, pour le coup, à Marseille, sur le narcotrafic, c'est compliqué à démentir. Quoi. Je vis juste à côté de Marseille, me dit Kouakou et Aix. Le procès de la DZ Mafia est en cours avec des énormes convois de police, snipers sur les toits, etc. C'est impressionnant. Bon, en tout cas, quand on voit ce phénomène, et qu'il ne semble pas que des mesures aient été prises pour lutter contre les causes de fond de ce phénomène, j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on parle de ce phénomène. Voilà. Alors, le narcotrafic, on en parle régulièrement ici, et de ce qu'on pourrait éventuellement faire pour mettre fin à ça, mais on en reparlera sûrement. Et d'ailleurs, on va continuer à parler de ce sujet, du narcotrafic, avec le sujet suivant, avec une question volontairement un peu provocante. Amis YouTube, je vous garde avec nous pour ce deuxième sujet, parce que c'est lié et c'est intéressant. Et si vous consommez vous-même, par exemple, du cannabis ou de l'herbe, elle va vous parler, cette question. Voici la question. Si je fume un joint, ai-je ou non du sang sur les mains? C'est un sujet qu'on a déjà abordé. Vous savez que c'est notamment le discours des autorités en France, hein, qui a été répété à plusieurs reprises. Les consommateurs sont responsables, sont au moins pour partie responsables de la violence qui entoure le narcotrafic. C'est l'équation. Bah, s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. Si vous consommez pas de drogue, il n'y a pas de trafiquant. Et s'il n'y a pas de trafiquant, il n'y a pas de violence, etc. Alors oui. Et non. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est d'être un peu subtil sur le sujet. Et on a déjà abordé ce sujet à plusieurs reprises, mais je trouve que ce papier du Monde est éclairant. Voilà. Comme le dit Benchki, MDR, la réduction de simplet. Exactement, c'est un petit peu simplet. Si je fume un joint, ai-je du sang sur les mains ? Une campagne ministérielle, il y a une actualité, c'est qu'il y a une campagne ministérielle publique de culpabilisation des consommateurs de drogue qui incite sur leur responsabilité dans les violences liées au narcotrafic. Mais les autorités pourraient s'interroger également sur leur propre rôle, estime Pascal Richet. Lisons ce papier. Au calme, tu roules un bon gros tarpé en fredonnant Easy Skanking de Bob Marley quand tout à coup surgit sur ton écran un spot du ministère de l'Intérieur, image en noir et blanc, bourdonnement grave en guise de fond musical. Dans une cité du genre Nouvelle-France, un caïd barbu assis, jambes écartées, beau spécimen de manspreader, recrute un enfant encapuché comme guetteur, il le menace et si tu trahis, gros plan sur un flingue, la leçon du spot apparaît, tu consommes, tu cautionnes.
Il existe ce spot ?
Ah ouais, je l'ai. Donc c'est un spot gouvernemental.
On m'a dit que t'avais besoin de cash, c'est ça ?
Pour aider ma mère. Elle est toute seule et j'aimerais bien lui acheter une maison.
Tu connais le job ?
Pas trop. Je sais que je dois crier si je vois les condés.
Les condés, mec, on les voit pas toujours. Tu vas devoir prendre toutes les plaques d'IMAT. Tu vas devoir les traquer constamment. Et si tu vois rentrer une seule de ces voitures dans le quartier, tu dois crier à la seconde. Compris ?
Compris.
Il y a aussi les autres gars, les autres gangs qui veulent piquer notre bise. Tu dois avoir les yeux partout, tout le temps. T'as capté ?
Ok, ça me va. Mais si jamais je me fais arrêter.
Tu risques rien. T'es trop jeune. Et c'est bien pour ça qu'on te recrute. Et si tu trahis...
Waouh. D'abord, je voudrais saluer le jeu d'acteur. Hein. Le jeu d'acteur du dealer là, qui est assez impressionnant. Blague à part, c'est donc le spot dont le Monde parle. Voilà, je vous remets l'article. Tu consommes, tu cautionnes. Bah, la question, c'est est-ce que c'est aussi simple ? Bon, ou plutôt, écrit le Monde, ça te gâche un peu ton plaisir, cette affaire-là. Es-tu vraiment responsable, toi qui viens de te rouler un petit 3 feuilles ou 4 feuilles ou 5 feuilles, que sais-je, sur ton divan ? Es-tu vraiment responsable du narcotrafic et des violences qui l'accompagnent ? C'est ça la question. As-tu du sang sur les mains, comme l'a trompété Bruno Retailleau quand il régnait Place Beauvau ? Quand il était ministre de l'Intérieur, Retailleau, dont on va parler juste après d'ailleurs, puisqu'il est candidat de LR à la présidentielle. En novembre 2025, après la mort du jeune Mehdi Kessassi, tué par balle parce que son frère, le militant écologiste Amine Kessassi, est engagé dans la lutte contre le narcobanditisme, le président Macron lui-même avait estimé qu'acheter de la cocaïne ou du cannabis, c'est de fait être complice et donner du financement à des réseaux de criminalité organisée. Ont-ils raison ? La réponse n'est pas simple, écrit le journal. On peut déjà distinguer deux situations, celle des toxicomanes et celle des non-addicts. Car si les êtres humains doivent assumer la responsabilité de leurs actes, encore faut-il qu'ils aient la capacité de faire des choix. Or, avec la drogue, le libre arbitre peut être empêché par l'addiction. Les soignants qui travaillent quotidiennement avec des consommateurs le constatent tous, les drogués sont avant tout des victimes d'une pathologie et il est contre-productif de chercher à les culpabiliser. Le gouvernement lui-même envoie des messages contradictoires pendant que le ministère de l'Intérieur accuse les consommateurs de complicité avec le grand banditisme. Vous avez vu le clip comme moi à l'instant. La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives explique, elle, sur son site, que d'un point de vue scientifique et médical, les addictions sont des pathologies cérébrales définies par une dépendance à une substance ou une activité avec des conséquences délétères. Une maladie du cerveau, donc. Peut-on être responsable quand une telle maladie bloque le discernement ? Selon le psychologue Jean-Pierre Coutron, spécialiste des addictions, la véritable cause de la violence du narcotrafic vient en réalité des autorités, celles-là même qui montrent du doigt ces toxicomanes, c'est la prohibition. Les consommateurs, eux, n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers le marché abandonnée aux mafias, hein, puisque ce marché n'est pas encadré ou légalisé ou dépénalisé, c'est la prohibition. Les consommateurs n'ont donc pas d'autre choix que de se tourner vers le marché abandonné aux mafias, estime-t-il. Dans le cas d'autres addictions, celle des jeux de hasard et d'argent, les autorités ont prévu un accès contrôlé, casino ou buraliste. S'il est injuste d'accuser les personnes dépendantes, quid des autres ? De ceux qu'Emmanuel Macron décrit comme les bourgeois des centres-villes qui fument en rentrant du travail, comme si les femmes et les hommes qui sont issus des classes populaires ne pouvaient pas tourner un joint, mais passons. Ces consommateurs occasionnels ne peuvent-ils pas, eux, ceux qui sont pas dans une logique d'addiction, donc, ces consommateurs occasionnels ne peuvent-ils pas, eux, résister au désir de fumer ? À cette objection, Jean-Pierre Coutron répond qu'en s'étonnant du deux poids deux mesures dans ce débat, pourquoi n'accuse-t-on pas les buveurs de vin de financer un secteur qui tue chaque année des dizaines de milliers de personnes, notamment sur les routes. De même, reproche-t-on aux détenteurs de smartphones, c'est-à-dire vous et moi, d'être complices de l'extraction violente des minerais de sang, comme le coltan en République démocratique du Congo. S'ils devaient débattre de l'autre dilemme, les grands philosophes de l'éthique se disputeraient probablement. Les déontologistes, ceux qui proposent de fonder nos actions sur des principes moraux, se rangeraient sans doute du côté des autorités. L'article cite Emmanuel Kant, j'adore cet article. Le premier d'entre eux, Emmanuel Kant, qui considérait que toute action devait être conforme à une conduite qu'on souhaiterait universelle, condamnerait la drogue en général. À son époque, il jugeait immoral la masturbation. À ce pourquoi ça parle de masturbation tout de suite là ? D'après Kant, ne vous masturbez pas. C'est ce que je comprends. Toujours oui, ça fait plaisir. Donc ça, c'est du côté de la pensée de Kant, quoi. Une autre écurie, les éthiciens de la vertu, se demanderaient si Jésus ou Socrate se drogueraient. Pas sûr qu'ils se mettraient d'accord. Enfin, derrière Jérémy Bentham, les utilitaristes pèseraient les conséquences concrètes de l'acte de se droguer. D'un côté, il conduit indubitablement à un certain bien-être pour les usagers. De l'autre, il finance un système tissé de violence et de souffrance, mais dans une proportion infime. Le renoncement individuel, constaterait-il, aurait zéro impact sur ce système. Pour que ça fonctionne, il faudrait un mouvement collectif coordonné du type boycottons l'herbe tachée de sang. Ce qui n'est pas près d'arriver. Si un mouvement collectif se levait pour lutter contre les organisations criminelles, pour être efficace, il choisirait plutôt la voie politique et exigerait la légalisation du cannabis. Analyse le philosophe Martin Gibert, chercheur à Montréal. Pour Patrick Faro, sociologue, directeur de recherche au CNRS, auteur d'une philosophie pratique de la drogue, la suggestion d'une causalité entre le consommateur, c'est ça la question, et la violence du narcotrafic ne tient pas la route. C'est faux en termes de logique, car l'une n'implique pas l'autre. La violence du narcotrafic a bien d'autres causes, comme l'interdiction. Moralement, il n'y a pas de responsabilité directe ou indirecte dans la violence en question. Le seul lien est d'ordre économique. Il ne suffit pas de constater un lien entre l'offre et la demande pour se débarrasser d'un désir de consommation. Il ajoute, plutôt que de culpabiliser le consommateur, et notamment celui qui est addict, il serait préférable d'utiliser de bons arguments, par exemple la santé physique ou l'intégrité mentale, plutôt que de traiter les consommateurs comme des imbéciles moraux. Après avoir lu cette chronique, tu décides de jeter ta weed aux toilettes, dit le journaliste, tu tires la chasse. Un autre spot TV plus ancien te revient en mémoire. La drogue, c'est de la merde. Pas mal cet article. Bon, si je suis élu en 2027, parmi mes premières mesures, il y aura le lancement d'une grande réflexion. Alors, je créerai une commission, vous moquez pas, hein. Une commission ou bien un truc avec des Français, là, comme on dit, là, le truc que Macron, il a fait plusieurs fois, là, qu'on n'écoute jamais après. Non, pas sur la masturbation, non. Grand débat, ouais, mais la convention. Convention citoyenne. Je crée une grande convention citoyenne, en même temps qu'une commission sur le sujet, voilà, et je demande à ces gens de se pencher sur tous les exemples étrangers où il y a eu dépénalisation, pardon, où il y a eu légalisation. Avec cette proposition, voyons ce qui s'est passé aux États-Unis, voyons ce qui s'est passé en Espagne, voyons ce qui s'est passé dans plein de pays, voyons si ça a marché et voyons si ça peut être reproduit en France. Avec un encadrement étatique, comme les paris d'argent sont encadrés, comme la vente d'alcool est encadrée, comme la vente de cigarettes est encadrée. Et on légalise, et on encadre, et on taxe. Ça fait des sous, et on essaye de diminuer le narcotrafic comme ça. Ça, ce serait une de mes premières propales. J'ai pas tellement envie de me présenter à la présidentielle, mais rien que pour porter cette proposition, parfois je suis tenté. Non, on va pas taxer la masturbation, les gars. Quoique, ça pourrait rapporter vachement de thunes, en vrai. Et si... Tu me donnes une idée, là. Il y a moyen de renflouer les caisses de l'État avec ça. Non, restons sur la drogue. 20% 20% sur la... Waouh. Après, peut-on vraiment se comparer à d'autres pays? Les mentalités en France sont quand même particulières. Ben, c'est pour ça que la première mission de cette commission serait de réfléchir au fait de savoir si c'est duplicable chez nous, quoi. Est-ce que je pourrais ministre des drogues, dit Patator? Bah, je sais pas. On verra. Ascalpin dit, je suis désolé, mais la consommation dépénalisée à 18 ans est une connerie sans nom. Comparer l'effet du cannabis à celui de l'alcool est vraiment pas logique. Tu as raison, l'alcool c'est beaucoup plus dangereux. Effectivement. Je pense que c'était pas la question d'Ascalpin, mais c'est ma réponse. Et au-delà de l'argent, le meilleur, Ibo nous dit, argument pour la légalisation, c'est la santé publique, les produits de coupe et la merde qu'ils mettent renforcent la dangerosité. Mais premier degré, c'est un sujet sur lequel il va falloir avancer en France. À l'instant, on se demandait, mais comment on met fin à ça? Comment on met fin au fait que à Marseille, il y a des mineurs qui sont mis en examen, 47 précisément, pour tentative d'assassinat ou assassinat. Bah, si on se penche pas sur le fond de l'affaire, ça va continuer ça. Donc peut-être que c'est une piste quand même. Ah, ouais, il va falloir finir d'arrêter d'opposer la drogue criminelle et l'alcool, le terroir. Ouais. C'est une piste à suivre. Amis YouTube, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas, on est tous les matins en direct sur Twitch. Alors, normalement, c'est 9h midi, hein, 10h, 13h. Là, ce matin, on a fait un 6h, 9h exceptionnellement. Mais voilà, on est là tous les matins. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de vacances ici. C'est quand vous voulez. En tout cas, merci. N'hésitez pas à mettre un pouce, à liker et à follow cette chaîne YouTube qui est en train d'exploser, mesdames et messieurs. Je suis en train de devenir YouTuber, sans faire exprès. Et c'est tant mieux.